Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Jean Gauthier avec vous pour la prochaine heure. On va s'amuser. On va parler de business, on va parler d'affaires, on va parler de finances, on va parler de vente. Aujourd'hui, on a un expert avec nous autres pour nous entretenir. Mais on va aussi découvrir un être humain. Ben oui, parce que les entrepreneurs, vous le savez, on est des êtres humains avant d'être des entrepreneurs. C'est ça qui fait la beauté du podcast Dans la jungle des affaires. Numéro épisode aujourd'hui 471. Yes. Ça va me prendre des cymbales, faire des sons. On reçoit aujourd'hui M. Rodolphe Meignier, je le dis bien?
Meignier, c'est parfait.
Raison. Yes! Comment ça va?
Ça va super bien.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
C'est un grand plaisir.
Écoute, puis tu me disais d'entrée de jeu que c'était une des premières fois, du moins que tu...
Écoute, c'est une expérience.
Oui, bon, ouais. Ben parle-moi de ça, c'est le fun. Je me sens dans ce temps-là un peu comme quand, tu sais, quand on va en avion, on prend l'avion pour la première fois, quelqu'un, que c'est la première fois que toi, t'es habitué, mais ton invité, c'est la première fois, c'est drôle, hein, tu?
Ben oui, ben c'est pour ça qu'on se tient la main, là, tu sais.
Oui, tu regardes la... Oh, oui, c'est pour ça que je te tiens la main, absolument. Rodolphe, écoute, je suis allé voir ton article avec Prestige, le magazine Prestige, et puis j'ai trouvé ça vraiment, j'ai dit, coudonc, tabarouette, c'est un gars de même, il faut qu'on jase de vente, parce que on est habitué de recevoir des entrepreneurs de toutes sortes, puis il y a beaucoup, le mot vente revient beaucoup, parce que oui, on vend des produits, on vend des services, mais souvent aussi, on va vendre des idées à l'intérieur de nos propres équipes. Donc, on va parler de relationnel, hein? On va parler d'une personne qui doit vendre son idée à une autre personne.
Parfait.
Alors, ça va être le fun.
Vendre ou faire acheter, mais ça,
oui.
C'est un autre débat.
Oui, parce que c'est sûr qu'on n'aime pas se faire vendre, on aime mieux acheter. Hein? Ça, c'est un vieux dicton. Mais avant de savoir, Rodolphe, toute ton expertise au niveau de la vente, on veut savoir, ce gars-là, c'est qui? Il vient de où? Comment ça se passe? Rodolphe Meignier, ça vient de où, ça? C'est un petit accent, je pense, en plus.
Un petit accent du sud de la France.
Ouais. Du sud de la France,
ouais, bon. Ouais. Aix-en-Provence, exactement.
Ah oui?
Ah, ouais,
oui. Oh, c'est tellement beau.
Pays des cigales, wow. L'huile d'olive,
ah, ben oui.
Le raisin, la pétanque.
Ben oui. Mm-hmm. En fait, c'est le paradis.
On est proche de là.
Mais est-ce que tu y retournes souvent?
Ah oui. Ben, ouais. Tous les deux ans.
Oui, hein? Ouais. Ta famille est encore là-bas?
Toute la famille, oui.
Ouais. Toi, tu t'es emmené ici à quel âge? Comment tu as fait le grand saut? À nage? Tu as traversé à l'océan à la nage?
J'aurais aimé ça. J'ai manqué un peu d'athlétisme.
Oui, c'est sûr. Hein?
Mais non, un échange universitaire comme beaucoup d'étudiants qui se promènent sur la planète.
C'est comme ça que ça a commencé.
Oui. Donc, je suis venu faire mon...
T'es venu ici à Laval?
Ma dernière année, oui. Ma dernière année d'école de commerce que je faisais en France, je l'ai fait à Laval.
Puis il y a quelqu'un d'ici qui est allé là-bas prendre ta place, c'est ça? Non?
Normalement, oui. Ouais. Généralement, les gens d'ici vont plus aux États-Unis ou dans d'autres pays pour apprendre une autre langue.
Oui, pour aller avec l'anglais. Ouais,
alors que
ça.
Nous, on vient ici, en Amérique du Nord, par le Québec, parce qu'en France, on est pourri en anglais. Donc, c'est facile pour nous. On dit qu'on est en Amérique du Nord, mais on parle français.
Oui. Ben c'est vrai qu'on est le seul coin de pays qui parle français. Ben oui, tout à fait.
Avec le Nouveau-Brunswick, oui.
Tu as tellement raison. Puis tu es venu ici quel genre de formation? Comment ça s'appelait à l'université, ton programme?
Ici, à l'université là, ici ou en France?
Ben en fait, les deux. Là.
OK. Moi, je te dirais, j'ai commencé par... en fait, ma première formation, j'ai fait un lien avec la vente, tiens. Ma mère a toujours eu cette fibre de vente-là. Elle a eu un magasin, elle a écrit des livres, elle était passionnée par l'alimentation. J'ai toujours appris quand j'étais jeune, on est ce qu'on mange.
Ah oui.
Donc ça a toujours été.
C'est inspirant ça.
Ça a toujours été important pour nous. Et l'autre chose qu'elle m'a appris, c'est si tu veux qu'un projet arrive, il faut que tu en parles.
Ah ouais.
Ouais.
L'espèce de. Tu sais, dis le haut est fort et ça viendra, là. Comment tu appelles ça? Le secret?
Tout à fait. Donc, moi, j'ai fait des études. J'ai commencé mes études en génie mécanique à l'université, à Aix-Marseille, qui m'a amené à jouer, à comprendre les usines, la fabrication, les produits, toute l'ingénierie, l'essai industriel. C'est un domaine dans lequel, moi, j'adorais faire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis aperçu que... Puis j'ai croisé un prof à l'université qui faisait plus du management, qu'on faisait plein de choses dans une usine, mais je me posais la question, pour qui on le fait? Ah, puis pourquoi on le fait comme ça? Puis pourquoi on devrait, tu sais? Et petite anecdote, j'étais le seul en blouse blanche dans l'usine, alors que tout le monde avait un bleu, là. J'ai toujours été un peu à part. Et donc, ce prof m'a amené dans une école de commerce qui était spécialisée justement en double diplomation, technique et c'était marketing finance. Et là, ben, j'ai pu appliquer tout ce qui vient en amont du produit, donc le marketing, pourquoi on le fait, la finance, ben, l'optimisation, comment l'efficience, combien ça le vend. Ah, oui. Puis, donc, j'étais en train de fermer la boucle, en fait, puis j'ai adoré ça. J'avais mon chargé d'études qui était un gars avec qui j'avais lié de bonnes relations. J'ai su après, d'ailleurs, qu'il était prof ici dans un cégep en marketing. Tant en temps, il faisait prendre un avion. Il venait d'ouvrir un échange avec l'Université Laval.
OK.
Et moi, j'arrivais de 6 mois de Londres dans un échange. Donc, j'arrivais au mois de juin. Je vois, bah, Michel, comment ça va? Comment ça s'est passé? Ah, j'ai adoré ça. Bon, ben, en septembre, t'es à Québec. Ah, OK. Donc, je suis arrivé à la maison. Je dis, bon, Michel m'a dit qu'en septembre, il faut que j'aille à Québec. Mes parents ont dit, ben, parfait.
C'est où ça, Québec?
Ouais, c'est hein? ça. Non, quand même. Non, quand même. On n'était jamais venus, là, ouais. Mais. Mais c'est ça. Donc, je suis parti pour 18 mois. Puis ça fait 26 ans maintenant. Là.
Wow!
Ouais. Ça veut je suis dire plus que... Québécois que Français ouais, c'est en, ça, nombre, j'allais dire. En nombre d'années. Ouais.
Ben oui, t'as plus de temps passé parmi nous.
Oui, tout à fait. Quasiment mais, un pur laine.
Mais la bosse des ventes, est-ce que le métier que tu apprenais là-bas au niveau de l'ingénierie puis tout ça, est-ce que ça te rapporte encore aujourd'hui? Est-ce que tu vois des liens?
Oh, je vois des liens tout le temps ouais. Parce que nous, on est... notre clientèle est très B2B,
ouais.
50-60% manufacturière, distribution. Donc, moi, j'aime ça quand je rentre dans une nouvelle organisation, d'aller marcher dans l'usine, sentir l'huile, sentir les choses, capable de voir qu'il y a des choses qui ne marchent pas, poser les bonnes questions, comprendre la valeur ajoutée. Est-ce que c'est une usine qu'on peut présenter à un client? Est-ce que c'est assez waouh pour dire « faut que tu amènes tes clients là ».
Puis souvent, les gens en vente, hein, tu me corriges, là, mais souvent, ils n'ont pas cette notion-là d'aller visiter justement l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Souvent, je prends un exemple.
De leurs clients, c'est souvent c'est ça.
Oui, c'est ça, exact.
Va chez le client.
Ben oui, va voir c'est quoi sa réalité. Parce que lui, il t'achète. Hein? Puis aussi, des fois, on va dire, ben on vend des produits, mais ils sont fabriqués où, sont entreposés où nos produits. C'est le fun de tout savoir ça.
Oui, puis quand tu te promènes dans l'entrepôt, tu vois tes concurrents.
Oui.
Ben oui. Tu vois des problématiques, tu vois plein de choses. Ouais. Mais c'est ça, donc qui fait que quand je suis arrivé ici, moi j'ai fait mon MBA en gestion internationale. Et je veux plus
tu
en plus...
Tu voulais retourner dans ton coin? Ou
ouais, ben c'était prévu.
Oui?
C'était
prévu. Oui?
Ah, plus ou moins, là, mais bon, c'est une histoire plus longue. On en verra une bière après. Mais,
un autre chapitre.
Exact. Mais non, c'est ça. Puis je me suis intéressé surtout à l'humain, la culture... Parce que donc j'ai fait mon essai de maîtrise sur la culture en affaires entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe pour arriver finalement après plusieurs années, 20 ans quasiment en conseil, m'apercevoir que même dans une organisation, quelle que soit sa taille, il y a une culture d'ingénierie, comptabilité, finance, vente. Puis c'est ça qui va m'amener, que je suis tombé dans les ventes là, mais... finalement, tout ça pour s'apercevoir que quelle que soit la culture dont on vient, il faut s'intéresser à notre interlocuteur.
Mais
c'est ça qui fait que quand je commençais
à l'autre.
Après mon MBA, je suis parti. J'ai accompagné quelqu'un qui partait en affaires, une start-up. Donc j'ai fait mon deuxième MBA appliqué. Tout ce qu'il ne faut pas faire en 18 mois, ça a été fait. Donc j'ai dit au moins, ça commence bien ma carrière. J'ai fait toutes mes erreurs. On peut passer à autre chose.
On a tous pris les erreurs en partant.
Exact. Non, on en fait d'autres aussi, mais on apprend.
On apprend les erreurs.
Il faut. La pire erreur, c'est de ne pas apprendre.
Oui, puis aussi, c'est ça, oui, tout à fait, tu as tellement raison. Puis de ne pas la refaire deux fois.
Oui, ça devient un problème cognitif après. Mais c'est ça, donc après ça, manufacturier, très manufacturier, IPL dans Bellechasse, l'un des plus gros injecteurs au Canada, une expérience assez incroyable. Une grande entreprise, mais avec gérée par des intrapreneurs. Donc, ouais. J'étais en charge de tous les produits aux consommateurs sur l'Amérique du Nord. On a fait des choses incroyables. Et c'est là que j'ai été en contact avec une vraie équipe de vente.
Mais là, tu étais membre de l'équipe.
J'étais chef de produit,
en fait. Oui, c'est ça. Tu étais chef de produit.
J'étais en marketing.
n'étais pas leur patron encore ou du moins leur coach de vente? Ou,
non, écoute, j'étais dans mon sous-sol, dans mon bureau à Saint-Damien-de-Bellechasse. Là.
Ouais.
Puis on m'a dit, bon, Rodolphe, voici tes produits. Il faut que tu ailles chercher X millions de plus de chiffre d'affaires. Puis
go,
mon grand, t'es capable. Donc là, ça a été OK. C'est loin, Saint-Damien-de-Bellechasse, par rapport aux États-Unis.
Oui, oui, ben oui, tout à fait.
Mais écoute, ça a été une expérience assez incroyable, une école des gens très humains. On parlait d'humains tout à l'heure.
Oui.
Une entreprise très humaine qui fait confiance aux gens, qui laisse aussi faire des erreurs.
C'est ça. Permet l'erreur.
Contrôler, là, tu sais, parce que ça peut jouer à plusieurs millions quand tu te plantes.
Oui, oui, c'est.
Mais en 3 ans, écoute, on est allé chercher 75% des parts de marché en Amérique du Nord de toutes les salades préparées qui se vendaient sur le.
Les salades préparées.
Ouais. Ah. Tu sais, quand t'as acheté de la coleslaw, machin, etc.
Ouais, ton
etc.,
côté là. Peut-être de ta mère, peut-être.
Méditerranéen. Non, non, moi, je faisais juste les emballages.
Non, là. Mais là, je parle au niveau, parce que c'est quand même une industrie qui, au niveau de l'alimentation, peut-être que tu voyais peut-être des liens.
Ah, ouais, non, je te vois que c'était pas vraiment ça, là, mais c'était du packaging très industriel. Donc après, j'ai fait de l'innovation chez IPL, des choses assez incroyables, des liens avec des universités, Gainesville, Vancouver, Suisse, on a entendu. Et par la suite, il y a eu différents mouvements chez IPL, puis une genre de mini ralentissement dans les années 2004-2005 qui fait que mon poste a été coupé, que j'avais créé d'ailleurs. Je me suis créé la propre branche sur laquelle je coupais, mais c'était bien correct. Puis la semaine d'après, j'ai commencé en conseil.
À ton compte.
Non. J'ai eu la chance de croiser à travers mes années aussi bien universitaires que de travail Régent d'Encausse, en fait.
Okay. Je sais
pas si tu connais Régent d'Encausse.
Non.
C'est le premier cabinet stratégie au Québec dédié à la PME.
Ah oui?
Les meilleures pratiques d'affaires en marketing, en exportation, un grand spécialiste du marketing international et une entreprise qui a plus de 30-35 ans maintenant. Régent est encore d'ailleurs très actif.
Oui.
Et son fils maintenant a pris la relève. Et quand je suis arrivé moi au groupe d'Encausse, Régent avait l'ambition de créer sa relève. Donc son fils, moi je suis arrivé après, une autre personne est arrivée. Et là on faisait de la stratégie. Stratégie d'organisation, plan stratégique, vision 3-5 ans, enfin toutes les grands principes. On avait une grande particularité, je pense, au groupe d'Encausse, puis c'est pour ça que les gens nous apprécient, puis qu'on restait chez nos clients, c'est qu'on ne livrait pas un plan d'affaires en disant « Regarde, si tu suis ça, ça va bien aller, mon grand. » On était plus à dire « Ok, c'est ça qu'on a décidé, comment on peut travailler ensemble pour y arriver, comment on t'aide ?» Et
pour un start-up.
Non, on était plus sur des entreprises, je te dirais.
Déjà en place,
déjà
0,
établies. Plus que ça. Là.
Ah oui.
Oh, oui. On a eu avec des gros clients, okay. Orbos, des entreprises qui faisaient, je dirais, entre 5 et 200 millions à peu près de chiffre d'affaires. Et c'est là que je me suis reconfronté aux ventes. J'avais eu la prise de conscience chez IPL. Puis là, je l'ai vu là où. Faire découler une stratégie d'affaires dans les opérations, chez des ingénieurs, dans une usine, c'est assez facile, entre guillemets. Un, parce qu'on contrôle 100% de ce qu'on fait. Mmh. Qu'on le fasse bien ou mal, on est le propre coupable parce que ça nous appartient.
Oui, tout à fait.
D'investir là, de faire ci, de faire ça. Quand j'arrivais dans le monde des ventes pour appliquer la stratégie, ben là, c'était plus flou. Il n'y a pas de processus. J'avais 10 vendeurs. Chacun avait son propre façon de travailler,
chacun son style,
son façon de vendre les choses, on créait de la valeur, de la proposition de valeur, puis ça percolait pas dans leur langage. Ça, je l'avais vécu aussi chez IPL. Et je me suis dit, écoutez, ça c'est mon côté finance que j'avais fait avant là, mais les ventes là, c'est la première ligne des états de résultats. Les ventes,
c'est
le seul département qui crée un signe positif dans un état de résultat.
Bah oui.
C'est l'oxygène de l'organisation. Quand j'ai pas assez d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Ben, je ralentis, puis ça fait mal. Puis quand j'en ai trop, c'est l'euphorie, puis on perd le contrôle.
On perd le contrôle. On livre pas la marchandise.
Exact. Donc, c'est un peu ce qu'on a vécu pendant la pandémie. Hein.
Ah, ouais,
plein de ventes, pas capable de livrer.
Ah, ouais.
Ça fait mal à tout le monde. Au marché, puis aux consommateurs à la fin, parce qu'il y a l'inflation. Mais ça, c'est un autre débat aussi. Mais c'est ça. Donc, la culture vente était beaucoup sur la culture de « Ok, j'ai une équipe de vente, faites ce que vous pouvez, les gars. Cette année, on vise 28 millions, puis travaillez fort. » Il faut savoir que les ventes, c'est le seul département dans une organisation qui n'a pas ses lettres de noblesse à l'université.
Oh, j'ai jamais vu ce...
Toutes les autres fonctions ont un département à l'université. Ressources humaines, ingénierie, approvisionnement, etc. On trouve tous les cours, sauf la vente. Moi, j'ai eu un cours quand j'étais dans mon école de commerce en France, puis un cours à l'université de Laval. Non, à l'université de Laval, je ne l'ai pas eu, là, mais... c'est un gars qui est venu pendant 2 heures, il nous a mis des trombones de couleur dans une table, puis il nous dit « vendez-nous ça ». Là,
ouais.
On est loin de cette réalité-là. Là.
Ah oui, bah oui, oui.
Donc, on en a...
on est dans l'humain beaucoup, dans le relationnel. Ouais.
On est dans l'humain, le relationnel, mais les organisations actuelles... Puis c'est intéressant parce qu'après plusieurs années, je m'aperçois que dans les grandes organisations comme dans les petites, la performance des ventes repose quasiment à 90% sur la performance individuelle. Et on perd beaucoup d'énergie parce que quand on est sur le terrain, on n'a pas de vision globale des choses. On n'échange pas avec nos partenaires. Le manager est là pour sauver les ventes ou aller donner un coup de main pour donner un petit 5% pour aller closer une vente. Là. Excusez
l'anglicisme. Oui, c'est ça pareil.
Ça s'appelle comme ça. Comme je dis souvent,
sinon, on dit fermer la vente.
Fermer la vente, ouais, c'est ça.
Les gens ne comprennent pas dans le
temps-là. Non, c'est ça. Comme un CRM, tu sais, ouais. Un gestionnaire de relations clients.
Oui, c'est ça.
Exactement. Et donc, au fur et à mesure, j'ai développé des bonnes pratiques sur l'optimisation du temps parce que je me suis aperçu qu'un vendeur, la seule chose qu'il peut gérer, c'est 40 heures semaine.
Mm.
Donc, comment chacune des heures qu'il va mettre en énergie, en travail,
rentable.
Il va amener de la valeur à son client, à son organisation, puis à lui-même. Et là, c'est devenu une passion puis une obsession, ce moment-là, en fait, de dire comment je vais faire ça. Puis, c'est hyper valorisant quand tu amènes de la valeur chez ton client.
Oui.
Dans ton organisation,
ben oui.
Puis par défaut, la pyramide de Maslow, l'accomplissement de soi,
ben oui.
À toi-même, au-delà de la commission, blablabla, ça ne sert à rien à côté de... J'ai jamais vu, comme je dis souvent là, quand je fais des conférences, t'en fais toi aussi, mais tu sais, de dire quand tu fermes un deal d'1,5 million, l'adrénaline que ça te génère,
ouais.
Il est 1000 fois plus que le 5 000 $ que tu as de plus ben grâce oui. À cette vente.
Ben oui, tout à fait.
Donc, tu marches à quoi? Aux 5 000 ou l'adrénaline que tu vas aller chercher?
Ben
c'est
oui.
Une drogue,
ben oui,
closer
ben
une
oui.
Vente. Donc,
les vrais vendeurs, les gens qui sont vrais, qui carburent, comme tu dis, Rodolphe, à l'adrénaline, ils veulent, la plupart du temps, ne veulent même pas de salaire de base. Souvent, ces gens-là vont dire, attends un peu, là. Puis on... Il y a bien des vendeurs qui gagnent plus cher que les patrons. C'est correct, là.
C'est bien correct.
Ben oui. Wow, c'est le fun.
C'est ça. Donc, en 2005, 2011. 2011, je me suis assis avec Réjean, puis on a eu aussi des opportunités qui sont arrivées de France. Mais bref, et je dis, écoute, on a développé beaucoup de choses sur les ventes. Je pense qu'il faut faire quelque chose avec. Puis moi, ma fibre côté maternel, entrepreneurial, blablabla, il me semble que je serais dû pour partir. Réjean m'a fait confiance, il dit « Parfait, on part ça ensemble, puis on part une division dédiée à la vente au groupe d'Encausse. »
Puis il l'avait pas, et vous l'avez créé.
Oui, parce wow. qu'ils étaient surtout stratégie et marketing.
Ouais.
Puis rajouter une troisième patte dans une organisation, à un moment donné, ça mélange, tu sais, vous êtes en marketing.
Évident, ouais, c'est
ça. C'est quoi le message que tu fais passer? Non. Donc là, on a créé Celsius Solutions Vente. Celsius pour faire quoi? Ben pour monter la température dans les ventes.
Ah oui, faut qu'il fasse chaud.
Ah
ouais.
Et
quand il fait froid, on n'est pas bien. Là. Quand ça descend, là, wow!
Non. Quand ça ne bouge pas dans les ventes, ça fait mal. Il n'y a plus d'oxygène.
Est-ce que tu travaillais aussi dans tes conférences, tes ateliers avec un thermomètre?
Non.
Parce que des fois, on voit ça dans les entreprises.
Ben, je l'utilise beaucoup pour la partie atteindre des objectifs.
Oui.
Tout à fait. Dans mon thermomètre, comment je vais m'assurer de monter à X millions.
Ben oui, ben oui.
Puis on découpe ça par prospect, client, fort potentiel, ben voilà. Ouais. Et l'une des choses que surtout qu'on a développée quand j'étais au groupe d'Encausse puis qu'on a renforcé chez Celsius, c'est l'optimisation de la gestion des clients.
Ouais.
On sait qu'en moyenne, puis ça fait 15 ans que je lis la littérature là-dessus puis qu'on le vit à 50, 60 clients par année, il dort à peu près 20% de notre chiffre d'affaires chez nos clients.
L'espèce de 20-80, là?
Ouais, mais plus que ça, je te dirais, parce qu'on va en parler du 20-80, là, c'est intéressant aussi d'amener ça, mais on est tellement occupé qu'on finit pas de ramasser ce qu'on a semé. Tu sais, je donne toujours l'image où...
Ça, c'est bon.
J'ai semé un champ de fraises, puis finalement, j'ai tellement pas de temps de les ramasser parce que j'en ai un autre à côté que
ils
je marche...
Ils sont en train de pourrir.
Ben oui, je marche dessus,
ben
puis
oui.
Je suis en train de pourrir.
Ouais.
Puis, tu sais, je suis rendu... un autre champ de fraises, mais si tu n'es pas capable de ramasser 100% de celui-là, pourquoi tu en as un deuxième?
Ben oui.
Pour ramasser 50-50 puis en jeter la moitié?
Absolument.
Mais la moitié, elle n'est pas jetée. Hein? Elle enrichit le compétiteur.
Ben oui, tu as en plus.
Donc, parce que quelqu'un qui a un besoin, il va l'acheter chez vous ou chez un autre.
Ailleurs, c'est ça, exact.
Tout à fait. Donc, il fait qu'on a développé toute cette approche-là, puis on est devenu des experts, puis on est reconnu dans le marché après 12 ans, 13 ans, sur des experts sur l'optimisation
de la vente qui est faite, là.
Du potentiel de chacun des clients, qui fait que ça se décale en activité hebdomadaire, parce qu'un plan de vente, c'est assez court, là. Je te donne les grands piliers sur lesquels on travaille, puis après, je te laisse
me
challenger avec tout ça. Là,
mais, non, mais je comprends très bien.
Quand on me dit qu'il faut atteindre 25 millions par année, cette année, si je ne découpe pas mon 25 millions en activités hebdomadaires, comment veux-tu m'assurer que je vais atteindre 25 millions?
Tout à fait.
Alors que dans l'usine, on le fait. Si on dit je vais produire pour 25 millions de produits, toute l'ingénierie va dire, OK, combien de produits tu veux générer? Il va falloir que je crée une nouvelle ligne à l'heure, blablabla. Puis si j'ai un taux de rejet de moins de 1%, je ne vais pas atteindre mes objectifs, blablabla. Puis quand on va dans les ventes, c'est, on va être capable cette année.
Oui, c'est ça. On dirait qu'on est moins structuré au niveau de...
Parce qu'on n'est pas formé.
Oui.
Moi, je connais... À part sortir de l'école Xerox, parce que les grandes organisations ont compris depuis longtemps qu'il fallait qu'ils créent leur sales academy, leur académie de vente. Là. Mais la grande majorité de mes clients, les vendeurs qui sont sur le terrain, là, ce sont des gens qui ont une formation technique.
That's it.
Qui étaient capables de supporter à l'époque une cravate, mais non, ça ne se met plus. Là. Puis qui étaient plus ou moins capables d'enchaîner des phrases devant un client. Puis je ne sais pas du tout péjoratif. Mais
non.
Toi,
mais...
tu parles mieux que les autres.
Ben oui, on t'envoie.
Va donc présenter ça, puis tu connais le produit.
Ben oui, c'est ça.
Mais et l'être humain, on le sait, là, qui n'est pas encadré, challengé, etc., etc., il va atteindre 60, 68% de son maximum. Tu sais, je dis souvent, je ne connais pas un champion olympique qui est arrivé tout seul sur le podium. Comme un grand chez lui, dans sa caverne, avec sa hache, puis il s'est dit, moi, je vais devenir champion de bobsleigh, puis tout seul comme un grand. Tu sais, il y a le minimum 5 coachs, il y en a un qui veut dire quand c'est que tu dors, qu'est-ce que tu manges.
Ben oui.
Un vendeur, c'est un athlète. Moi, je fais souvent le parallèle, on fait souvent le parallèle avec les ventes, le sport. Là.
Oui.
Moi, j'aime bien utiliser la formule. Parce qu'on peut avoir le meilleur pilote, mais si on n'a pas la bonne voiture, on ne se rendra jamais sur le podium.
Exact.
Donc, c'est un travail d'équipe, en fait.
Et le contraire est le même.
Mais on a vu dernièrement, dans les dernières années, qu'il y a des pilotes moyens avec une excellente voiture qui étaient capables de gagner.
Ouais.
Et c'est là que nous, on travaille, on pense que la performance des organisations vente, de la fonction vente dans une organisation, c'est basé à 50% sur la structure, 50% sur l'agilité. Et tout ça est géré par le directeur des ventes ou la fonction gestion des ventes. Donc, nous, on dit, ben, si tu es capable d'avoir de la croissance parce que tes individus donnent 120% de leur énergie, puis c'est des athlètes qui sont incroyables, imagine donc si on commence à les orienter à la bonne place, si on commence à les structurer un peu plus, à les équiper de la bonne façon, à les former, c'est waouh, ça va exploser.
Ben, tu as raison de dire, Rodolphe, qu'il y a un gros parallèle à faire avec la vente, c'est-à-dire entre la vente et les sports, parce qu'on parle d'équipe surtout. Même un entrepreneur seul, vous les appelez là-bas en Europe, j'ai appris dernièrement, les freelance.
Les freelance, oui.
Oui, c'est ça. Ici, c'est les travailleurs autonomes, puis bientôt, ça va être les solopreneurs. Étant donné que le mot entrepreneur circule de plus en plus dans nos dans notre jargon. Donc, ben c'est ça, c'est d'arriver d'avoir l'équipe autour qui va justement faire en sorte que tu vas performer comme individu, que ce soit l'entrepreneur ou que ce soit l'employé aux ventes. Ben moi, je vois les vendeurs dans une équipe un peu comme des travailleurs autonomes. C'est comme s'il y avait leur propre entreprise à l'intérieur de l'entreprise. T'es-tu d'accord?
Ben ça, c'est, je pense que c'est la grande erreur qu'ont fait beaucoup d'organisations.
Ouais.
Parce que ce n'est pas des travailleurs autonomes, c'est des employés. Ça veut dire qu'ils ont droit aussi d'être encadrés, d'avoir des processus, d'avoir les bons outils. Combien de fois j'ai des entreprises qui mettent 1 million pour leur système ERP ou 2 millions dans une ligne de production, puis... ils sont pas prêts à mettre 5 000 pour former leurs vendeurs.
Oui, mais t'sais? Moi, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Où est-ce que moi, je parlais, c'était plus au niveau...
Faut qu'ils aient de l'autonomie.
Et voilà, il y a besoin de plus d'autonomie, le vendeur, que
un côté intrapreneur.
Oui, c'est ça, exact. Exact.
Mais si on le guide... Tu sais, souvent, moi, je fais le parallèle en disant... D'abord, je connais pas de vendeurs qui font rien et qui s'ennuient. Ils travaillent tous très fort.
Oui.
Mais si on ne les oriente pas, c'est comme des étalons. Si on ne les oriente pas, ils font beaucoup de poussière dans un champ. Alors que si on commence à les orienter, ben chaque énergie qu'ils vont mettre, va être payant pour les trois parties, ouais. client, entreprise et lui-même. Là. Ouais. Puis on a démontré depuis 12-15 ans qu'on fait ça, qu'on rentre dans les organisations où on peut doubler le chiffre d'affaires sans avoir ajouté deux fois plus de vendeurs.
Tout à fait.
Parce qu'on fait mieux les choses. Puis on parlait du 20-80, je donne un exemple très simple, puis j'invite mes auditeurs
absolument, voyons, il n'y a pas de problème là. On va faire dans la jungle de la vente.
Exact.
Écoute.
Ouais, cool, j'adore ça. C'est
moi,
parti.
Moi, je suis prêt, moi.
Et qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Et on s'aperçoit que quand on fait ça, quand on n'a pas de vision globale, puis de mettre en marche l'équipe orientée, 50% de nos clients nous ramènent les 5 derniers pourcents de notre chiffre d'affaires.
Ouais.
Puis ça, on le fait, que ce soit, écoute, on le fait chez des multinationales qui font plusieurs milliards,
peu importe le domaine d'industrie.
Et ça, c'est normal, il y a plus de petites compagnies que de grandes. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on prend 15 à 20% de l'énergie de l'organisation pour s'occuper des 50% qui génèrent les 5 derniers pourcents de notre chiffre d'affaires. Donc, on fait bien les mauvaises choses.
Oui, c'est ça. On améliore ce qui n'est pas bon.
Puis, il y a encore dans la Verte Business Review, tu sais, il disait, moi, je les suis depuis très longtemps parce qu'ils font ces analyses-là tous les 3-4 ans, puis c'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Il disait en 2019 que 50% des prospects que l'entreprise travaille, donc l'entreprise, c'est les clients, c'est les représentants, c'est les soumissions, c'est les ingénieries, ne sont pas intéressants pour l'entreprise. Mmh. Donc ça, c'est de l'énergie que j'ai pas
c'est perdu.
Le temps.
Ben,
j'ai pas le temps d'aller travailler un fort potentiel. J'ai pas le temps d'aller closer une vente. Mmh. Encore un bel anglicisme. Ben, c'est le même. Et etc. Donc, on ne veut pas les couper, ces clients-là. Mais s'ils nous donnent 5% de notre chiffre d'affaires ou de la marge, on leur donne 5% de notre énergie. Donc, on va optimiser notre processus à l'intérieur de ça. Mmh. Parce que souvent, un petit client, on va l'aider à s'organiser, il ne sait pas ce qu'il veut, etc., etc. Puis c'est correct, il n'a pas l'équipe.
On va passer plus de temps.
Et donc, on passe plus de temps avec un client qui peut nous amener 15, 20 000 qu'un client qui va nous amener 1,5 million parce qu'on dit, en façon, lui, il est fidèle jusqu'à un certain point. La fidélité, on le sait dans le couple, hein, c'est jusqu'à un certain point. Ce n'est pas acquis quand tu as le jonc autour du doigt parce que ça se saurait, il y en a un sur deux qui…
Oui, c'est ça. Les statistiques sont là pour le dire.
Sont là pour le démontrer. Puis c'est pareil en vente. Alors, de toute façon, il va m'appeler quand il aura besoin de moi jusqu'au jour où il n'appellera plus.
Non. Non, puis il va l'ailleurs.
Ouais. Donc, on démontre par A plus B quand on met notre énergie à la mauvaise place. Donc, je prends la même énergie si je l'oriente là où c'est payant. On va chercher 20 à 22% de croissance dans la première année, deuxième année. Puis ça, c'est… Pas nous qui l'avons, tu sais, c'est les meilleures pratiques. Là.
Non, puis tu le vois sur le terrain, puis tu le vois par expérience à le faire avec, avec ta clientèle.
Puis on a des équipes de vente qui sont épuisées à travailler beaucoup avec des petits nombres, tu sais.
Ouais.
Avec des petits
mais
nombres.
Le fait d'apporter justement des services comme tu fais et comme ton équipe fait à des entrepreneurs, à des équipes de vente, bien, ça permet justement aussi de peut-être d'éliminer le travail mal fait, le burn-out, l'épuisement, T'sais, parce que c'est ça qui est lourd pour une entreprise, là. L'équipe de vente qui n'arrache, hein, t'sais, comme on dit.
Tu sais, on apprend dans nos livres marketing qu'un objectif de vente, c'est le chiffre d'affaires, la marge et les parts de marché.
Mm.
Puis nous, on rajoute depuis plusieurs années avoir une équipe en santé.
Mm. La santé, mais l'humain.
L'humain.
Ben
parce
oui.
que...
C'est pas encore des robots là, qui font la vente. Là.
Non. Il y a des robots maintenant, c'est ça à l'Internet. Là. Mais la vente de solutions B2B, parce que nous, on est vraiment d'entreprise en entreprise. Là.
Ouais.
Aller vendre une solution, amener de la valeur à mon client.
Ça prend un humain.
Ça prend un humain. Mm-hmm. Puis ça prend un humain qui est en forme.
Oui, ça prend un humain qui est tout là.
Oui, parce que c'est de l'écoute du client, ses besoins, l'accompagner. Donc, écoute, ça a été l'aventure. On a eu un petit point névralgique dans notre parcours. En 2015, on a écrit les meilleures pratiques en gestion des ventes pour le ministère de l'Économie et de l'Innovation.
OK.
Donc, c'était une belle reconnaissance de ce qu'on faisait et puis de ce qu'on était capable de faire. Et ça nous a permis de finalement répandre la bonne nouvelle de Blanc-Sablon à Rouyn-Noranda.
Puis là, à l'époque, c'était encore Celsius.
C'était encore Celsius.
Oui.
C'était encore Celsius. Donc, un beau travail avec les gens du ministère terrain et qui répandent la bonne nouvelle, orienter les gens. Puis, je croise encore des gens, ça fait 10 ans qu'ils m'ont vu, puis ils disaient, je me sers encore de ça. Ça, c'est la meilleure paye que tu peux jamais avoir.
Ben oui, tout à fait. Puis, c'est eux aussi qui vont te référer.
Aussi.
Parce que...
Si on fait une bonne job, théoriquement...
Tu sais, normalement, on parle de vente, justement, ben si tu fais un beau travail en vente, peu importe l'entreprise, tu risques d'avoir des références de ta clientèle. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Sinon, tu es toujours en train de chercher de la nouveauté puis du nouveau client. À ce moment-là, tu le vis dans ton domaine. Moi, je le vis aussi ici dans la jungle des affaires. On sollicite de moins en moins les gens parce que c'est les gens qui, en partant d'ici, me disent « As-tu pensé à lui? Invite donc lui. Dis que c'est moi. » Puis, ben c'est comme ça que ça vire. Je veux voir, parce que je vois le temps se sauver.
Oui.
Je
l'ai mis au ralenti.
Non, mais je l'ai mis en ralenti, fait qu'on devrait être correct. Je veux savoir, Rodolphe, l'histoire, la transition que vous avez vécue.
L'an dernier,
oui. Ouais, dans l'article que j'ai lu avec Prestige, Celsius est rendu dans une... Ben, en fait, il est rendu... Il n'est pas mort, mais il a changé de... J'aimerais ça t'entendre là-dessus avec la grande...
Il a changé d'ampleur, oui.
Halifax, Amérique du Nord.
Alors, c'est rigolo, je vais commencer par démystifier quelque chose. Depuis 6 ans maintenant, on travaille avec les outils et les approches d'Halifax Consulting, qui est une boîte purement parisienne, qui n'a rien à voir avec la Nouvelle-Écosse.
Pourquoi ils appellent ça Halifax?
Ça, c'est un autre podcast.
Ah ouais? C'est trop long. Un autre podcast.
Mais vu que c'est des Français, je soupçonne qu'il y avait une coupe de bouteille de vin à travers
ça. Oui, il devait avoir du bon vin à travers ça. C'est correct.
Donc... Eux, en fait, c'est le leader en France, en Europe. C'est 20 000 personnes formées par année, vendeurs, managers, une filiale en Asie. C'est 80 consultants sur la planète, une plateforme de 160 modules, 15 langues. On est capable de former en 35 cultures. C'est énorme. Et en fait, eux, ils ont travaillé beaucoup avec les grandes multinationales françaises, Total, etc., etc. Donc, ils ont accompagné leurs clients à l'international. Hein. C'est ça qui, souvent, ça arrive.
Ouais.
Hein. Les entreprises sont à l'international parce que tu accompagnes tes clients.
Ouais.
Puis, tu en profites, quitte à être là, de faire plus de ventes.
Et, tu profites de la réexpansion.
Aussi. Exact. Oui. Et qui fait qu'il y a quelques années, un consultant de chez eux est venu passer de quelques années en Amérique du Nord avec le mandat de trouver un partenaire local. Et à force de chercher, finalement, la personne, c'est toujours le nom de « Pardon Rodolphe ». C'est plus non, je vais y parler, là.
Ouais.
Et quand ils nous ont approchés et quand j'ai vu tout ce qui nous amenait, en fait, l'expérience,
ouais.
Le côté international, la puissance des outils, une pédagogie moderne, ils sont toujours en avance sur la pédagogie. Je dis, nous, on est des experts à la structure.
Ouais.
Le recrutement, les plans de vente, on met de la mécanique en place.
Ouais.
Eux, c'est des experts à faire vivre cette mécanique-là à travers l'humain. T'sais. On l'en faisait un peu par la bande, mais on n'était pas équipés comme là on est équipés.
Ouais, ouais.
Qui fait que maintenant, j'ai dit, en ajoutant ça, on n'est plus la même organisation. Là. On est capable d'accompagner encore plus loin les gens et surtout, on est capable d'ouvrir le marché des grandes entreprises.
C'est plus complet.
On est plus complet. Et en ouvrant le marché des grandes entreprises, parce que on a des références, on a en Europe, c'est des clients à eux qui sont ici. On est équipé pour se battre contre les gros parce qu'on a même, je pense, dans notre académie, on est le plus occupé. Halifax Consulting, c'est le plus grand éditeur de livres de vente au monde.
Ah,
ils sortent un livre par année depuis 20 ans, minimum. Donc, on est toujours en avance là-dessus. Ça m'a permis de rentrer dans des super grandes organisations, d'avoir du plaisir avec ça. Et surtout, la mission de Celsius, c'est d'amener ce que les grands font dans le monde de la PME. Donc, on donne accès à nos clients naturels, les meilleures pratiques en pédagogie, en innovation pédagogique, en approche. Par exemple, je parle de notre cours de négociation, on garantit 20% d'augmentation de la marge après le cours.
Comment?
Parce qu'on a des outils qui ont été testés sur la planète, qui ont été améliorés en permanence, avec une pédagogie où on n'est pas en train de former les gens, on développe des nouveaux réflexes. Quand je suis à mes clients ou ce qui nous approche, je dis, on aimerait ça faire une demi-journée de formation de vente pendant notre meeting des ventes. Je dis, une demi-journée? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en une demi-journée? On ne peut pas développer. Si tu n'as jamais joué au golf, après une demi-journée, tu vas haïr le golf.
Oui, c'est clair.
T'sais? Puis combien de fois on a vu des formations d'une journée où... des formateurs comme moi, on peut faire des trucs incroyables, triper, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est lundi matin, qu'est-ce que j'ai changé dans le comportement qui va avoir un impact sur mes résultats?
Sinon, la formation,
elle a servi à rien.
Elle a déjà oublié.
Ben oui. Mm-hmm. Donc,
c'est du long terme. Ben, c'est du moyen-long terme.
Ouais. Donc, puis la formation, ça a été démontré depuis Edgar Dale en 1840, disait que la formation, c'est chronophage. Mm-hmm. Puis il faut jouer avec 7 à 8 fois le concept différemment pour que ça devienne un muscle naturel. Je fais des arts martiaux, là, tu sais. Ben, t'as pas le choix, il faut que tu fasses, comme dit mon maître, c'est plus dangereux quelqu'un qui a fait 1 million le même mouvement que celui qui a fait 1 million de mouvements différents.
Oui.
Donc, c'est ça, il faut développer des muscles. Mmh. Donc, on développe des muscles.
Ben, regarde, les gens qui souffrent d'handicap avec une main ou un bras, une jambe, l'autre devient tellement fort, puissant. C'est justement le fait que
tout à fait.
C'est répétitif.
Donc, pendant 5 ans, écoute, on s'est apprivoisé ce monstre-là de 160 modules. Avec, là, je sais qu'on n'est pas écouté. Là, une écurie aiguë de l'accent français. Là,
ah oui, mais c'est pas grave.
C'est 160
modules. Mais on les aime pareil. Ben,
oui, on les aime pareil.
On travaille, j'ai un collègue ici, Martin, qui est dans l'équipe chez Bronco, qui vient de Nantes et puis qui a un petit accent. Là. C'est drôle, c'est le fun. Des fois, je dis, comment vous dites ça, vous, dans votre pays, là? Je montre des expressions québécoises puis je montre des expressions françaises. Mais c'est le fun, moi j'adore. Écoute, je côtoie des gens beaucoup. Ben, je côtoie. Hier, j'étais avec une dame de la France qui s'appelle Sixtine. Alors, nous ici, on a Christine, on a Justine, mais là, j'ai appris qu'il y avait Sixtine.
Bon.
De la France. Alors, je la salue. De toute façon, je ne sais pas si elle va nous écouter. Mais hier, j'ai fait une entrevue. Avec... Okay. Non, mais on aime ça parce que, d'abord, ben, premièrement, on a la même... on se comprend. On a le même langage, du moins la langue française, même s'il y a certaines petites différences dans nos allocutions. Mais ça reste que... je trouve qu'en Europe, pour écouter beaucoup la télévision européenne, je trouve qu'ils sont très avancés, très... on a beaucoup à apprendre, à mon avis. Là.
Puis c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est parce qu'il y a une densité de compétitivité.
Ben, vous êtes beaucoup aussi. Hein?
On est presque 70 millions en France, oui, 450 millions sur l'Europe.
Ben oui.
Ils sont en mode survie en permanence.
Ben oui, tout à fait.
Donc quand tu es en mode survie, tu deviens créatif.
Tu deviens créatif et voilà, tu te surpasses.
Exactement. Mm-hmm. Donc oui, ils ont de l'avance parce que sinon, ils n'arriveront pas à s'en sortir.
Oui, puis j'aime aussi l'idée que c'est un peuple, c'est des gens qui sont beaucoup orientés vers l'international. Si vous voulez découvrir des choses à l'international, écoutez pas la télé canadienne ou québécoise, écoutez la télé française. Moi, j'apprends beaucoup plus sur la guerre présentement en Ukraine en écoutant vos reportages là-bas, en France, qu'ici à LCN ou au Québec. C'est triste, mais c'est ça.
Mais d'un côté, si on n'était pas international, on ne serait pas en train de parler français ici.
Oui, c'est ça. Vous parleriez anglais.
Hein? Entre autres,
oui. On ne tombera pas là-dedans. Un autre podcast?
Un autre podcast.
Un autre bouteille de vin.
Tout à fait.
Mais je trouve ça le fun parce que cette organisation à Halifax, Amérique du Nord, je pense qu'il y avait 2 ou 3 lettres. Là. Tu peux-tu nous expliquer l'acronyme? C'était HC, ça se peut-tu?
Oui, HC ou HNA maintenant ici là, pour l'Amérique du Nord.
Ouais. Okay.
Halifax North America ou Amérique du Nord. Et en fait, tout ça, juste pour faire une histoire courte,
oui.
Il y a l'an dernier, quand j'étais au siège social à Paris avec le président d'Halifax, Frédéric Vandeuvre, que je salue parce qu'il va m'écouter.
Ben, j'espère.
De toute façon, on n'a pas le choix. Et il me dit, écoute, vous avez l'air d'aimer ce qu'on fait, vous générez des ventes, vous avez de l'impact, vous maîtrisez une grande partie de nos outils. On devrait s'associer pour attaquer le marché nord-américain. Pour de vrai, pas timidement. Là. Donc,
parce qu'il n'était pas encore ici? Il était simplement en Europe?
C'était juste nous, leur pied-à-terre.
Ah oui?
On était comme un peu leur distributeur, entre guillemets. Là.
Oui.
Ils nous utilisaient quand ils avaient des gros mandats internationaux, comme on a formé toute l'équipe de vente de chez Dassault Systèmes aux États-Unis à distance, etc. etc.
Okay.
Et donc, après une soirée bien arrosée encore à Paris,
et ça passe toujours par là. C'est tannant, les soirées comme ça.
C'est fatigant. Et j'allais prendre l'avion à quelques heures, puis Frédéric me dit, et moi, pourquoi on ne transformerait pas Celsius en Halifax, Amérique du Nord, puis on s'attaque au marché? C'était comme un petit choc. Là. Donc là, on a discuté 3 ou 4 choses. J'ai dit, écoute, mets-moi ça lundi matin sur un par email. Puis,
un genre de franchise ou...
En fait, c'est plus que ça.
Un joint venture.
Moi, j'ai vendu la moitié de ma compagnie à eux.
Okay.
Ils sont actionnaires maintenant, 50% de Celsius. Et ensemble, on s'attaque au marché nord-américain. Donc,
okay. C'est récent, là. On parle de quoi, un an?
1er novembre.
Oh, wow.
C'est flamant neuf, comme on dit.
C'est flamant neuf.
Ouais. Donc, non, non, c'est une belle aventure.
Là, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent, sûrement. Ça, ça bouge beaucoup quand ça commence.
Ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête pas. On a une belle progression. Puis, eux aussi étaient intéressés parce qu'eux, ils sont beaucoup dans l'agilité.
Oui.
Puis, nous, en fait, on était sur la structure. Donc, eux aussi, ils sont en train de... Alors, je suis en train de contaminer, d'amener des choses. Il y a 5 ans, j'ai parti une compagnie de logiciels où on développe un outil pour le manager des ventes, pour le gestionnaire des ventes. Pour et qui arrive en amont du CRM, c'est-à-dire pour faire que le plan de vente qui est de, on se souvient, hein, de la vente jusqu'aux activités hebdomadaires, soit dans un outil qui vient automatiser et va pousser des activités dans le CRM, il va orienter les activités dans le CRM, qui est excellent pour mesurer les activités. Et donc,
mais un va pas sans l'autre.
Un va pas sans l'autre. Donc, catégorisation de clients, définition des processus en fonction des catégorisations, et on a même mis au point un indice de maturité. C'est-à-dire qu'on a identifié les 181 éléments qui devraient composer une fonction vente.
181?
Oui.
Aïe aïe.
Et,
c'est une thèse?
C'est 45 minutes où les managers passent à travers, le gestionnaire passe à travers ça, et prise de conscience de qu'est-ce qu'ils devraient faire. Bien entendu, sur les 181, il y en a qui, que je devrais renforcer plus que d'autres parce que si je suis en rétention de part de marché ou en développement de nouveaux clients, ce n'est pas les mêmes choses que je veux développer. Là. Puis maintenant, on a rajouté il y a quelques mois, le gestionnaire rentre sa stratégie, passe à travers le questionnaire et le système lui dit « voici où tu devrais mettre ton énergie pour renforcer ta structure qui va aider ton équipe ». Et ça, ils ont adopté ça. On vient de partir un gros projet au Canada, dans une multinationale française. On parle juste au Canada, 83 gestionnaires des ventes. Là. Donc, il y a une grosse équipe en arrière, prise de conscience.
C'est des gens qui sont autonomes ou c'est des gens qui sont employés de la boîte?
Non, non, c'est des gens employés d'une multinationale.
Quand même.
Et l'indice de maturité, parce que tu sais, comme moi, souvent, puis tu le vis en marketing, tu sais, les entreprises, entrepreneurs, ils sont capables de détecter qu'il y a une problématique, mais dans la vie, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas.
Non, c'est ça. Donc, on ne sait pas qu'il y a une parade, alors on n'embarquera pas dans la parade.
Exact. Donc, des fois, les clients nous arrivent en disant « j'ai besoin d'un nouveau vendeur parce que j'arrive à la limite de mon équipe puis je sais que quand je rajoute un vendeur, je rajoute 1 million. » Puis en discutant, on dit finalement « ouais, mais ton équipe, elle laisse 8 millions sur la table parce qu'elle est mal orientée, elle n'est pas à la bonne place, elle met beaucoup d'énergie, puis des fois, si on les guide un peu, puis là, on change on passe d'un recrutement à faire plus de ventes avec la même équipe.
À l'interne.
Donc, je baisse mes coûts de vente, j'augmente la rentabilité. Puis là, quand le prochain va arriver, il va arriver dans une structure qui est déjà prête.
Il est organisé.
À être optimisé. Et ça, c'est le fun. Donc, l'indice de maturité fait juste en bon latin, un wake-up call.
Oui.
Ouch, je ne savais pas que j'avais ça à faire ou tout ça à gérer.
Puis ça, c'est souvent des entreprises qui ont quand même beaucoup de vécu. On ne parle pas de start-up. Là.
Non, non, puis là, je te parle d'entreprises qui font plusieurs centaines de milliards d'euros par année. Puis il y a une prise de conscience que.
Wow.
Écoute, sur l'indice de maturité, je fais ça vite, là, mais je n'ai pas vu de compagnie qui dépasse 35%.
Ah oui.
Ouais. Parce que, ça revient à ce que je disais au début, la vente, on a tout mis sur l'humain.
Ben oui.
Mais si on faisait ça dans le sport automobile. Là,
ben ouais.
On serait encore avec des trottinettes.
Ben non, tout à fait. On n'aurait rien dans le véhicule.
Tout à fait. Donc, ça, c'est ce qu'on amène à l'Halifax.
Ça prend un combiné des deux.
Oui, mais c'est la somme des deux qui fait 1 plus 1, c'est égal 3.
Ben oui, c'est ça. Oui? 1 plus 1, ça fait 3?
Oui, toujours.
Ah, OK.
Ben, c'est l'inflation. C'est pas ça qu'on dit depuis plusieurs années.
Moi, j'avais une coach de vie à un moment donné qui m'expliquait qu'elle dit, quand tu parles avec quelqu'un, vous êtes deux. J'ai dit oui. Mais elle dit, dans le fond, vous êtes trois. Hein? Puis là, je ne comprenais pas. Elle dit, toi, l'autre personne, puis celui qui vous regarde. Parce qu'il faut que tu prennes position sur ce regard-là. Comment la personne te regarde, comment tu le regardes.
Ce qu'on appelle la métacommunication, tout à fait.
Ben oui.
Fait
fait quand on est deux, on est trois. Elle dit, oui. Bon, OK. Quand on est deux, on est trois. Comme maintenant, on est trois.
Exactement. Mais dans la vraie vie, on est un, en fait.
Ouais. Oh, attends un peu. Celle-là, dans la vraie vie, on est un. Oui, tu as raison, ça aussi. On pourrait parler longtemps de ça. Mm-hmm. C'est tellement vrai. On avait ce sujet de discussion hier avec l'équipe et des gens qui étaient venus en entrevue. On avait resté un petit peu après pour parler de tout et de rien. Mais il n'y avait pas de vin, par exemple.
Ah.
Non, c'était le bout de plate.
C'est ça.
Mais on parlait justement de ça, de dire que c'est nous la personne, nous sommes la personne la plus importante au monde. T'sais, il faut le comprendre, ça.
Oui.
J'ai un ami qui fait une conférence, Sylvain Boudreau, qui fait dans le mois Inc. Tu connais, Sylvain? Oui. Quand il dit, quand il parle à un moment donné dans l'avion, quand les masques tombent, il dit, tu prends le masque, tu le mets sur toi en premier, puis après, tu t'occupes de l'enfant. Mm. T'sais, on avait le réflexe de placer tout de suite le masque sur la bouche de l'enfant, t'sais, pour le sauver. Mais dans le fond, tu te sauves toi avant.
C'est comme, tu fais parler avec les ventes, c'est comme on envoyait les vendeurs sur la route avec les catalogues en disant « va aider tes clients, mais commence par aider tes vendeurs à être plus performants, à les former, à les entraîner.
Ouais. »
Chaque vente est une finale olympique.
Mm.
Pourquoi ils ne sont pas préparés?
Ah, oui.
Je dis ça à la blague, je dis, ouais, souvent on me dit « ah, écoute, j'ai pas le temps de les entraîner, on a un match important dimanche. »
Ben oui, on n'a pas le temps de s'entraîner, on va aux Olympiques la semaine prochaine.
C'est ça.
Ben voyons. Non, c'est bon. C'est des bonnes... Tu devrais créer un répertoire de tes slogans ou de tes idées. Oui, ben oui. Parce que la Bible de la vente...
Le slogan du jour, c'est...
Selon Rodolphe. Ben oui, pourquoi pas. Vous avez un blog? Vous avez un infolette avec...
Beaucoup sur LinkedIn. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn parce que ma clientèle est là. J'alimente beaucoup. Puis là, je me suis amusé dernièrement. J'ai demandé à ChatGPT, mon nouveau consultant.
Ouais.
J'ai dit, donc là, je viens de poster mon troisième article ce matin où j'ai demandé à ChatGPT, c'est quoi les 10 plus grandes erreurs qu'un gestionnaire des ventes fait?
Oui, puis tu les as sorties.
Oui. Oh. D'accord ou pas d'accord, mais il y a des choses intéressantes. Puis ça ouvre des discussions.
Tu vois,
j'anime le cercle du directeur des ventes de la chambre de commerce. Demain, j'ai une séance.
Oui.
C'est que des gestionnaires. On va prendre les 10, puis on va dire comment je me situe, est-ce qu'on est d'accord avec ça, on va travailler là-dessus. Puis là, le prochain, c'est quoi les erreurs, les 10 erreurs qu'on fait quand on forme nos équipes de vente.
Ah ouais.
Celui-là, il est intéressant aussi. Puis je ne fais aucun commentaire à part une petite introduction, puis je fais juste la liste, puis je laisse les gens discuter là-dessus.
Ben oui, c'est ça qui est le fun.
Ben oui.
Parce qu'eux, ils t'apportent aussi leurs idées, ils t'apportent leur vision, leur philosophie, dépendamment de leur domaine d'activité aussi. Des fois, ça peut différer d'une branche à l'autre.
Donc, on alimente le blog aussi d'Halifax, là. Donc, c'est ça. Mais moi, je crois qu'il faut... On a un mandat, toi comme nous, consultants, d'amener les bonnes pratiques, de faire évoluer les bonnes pratiques. On est des contaminants. Parce
ben
que
oui.
Nous, on fait... Moi, je passe 70 heures semaine à penser vente.
Ben oui.
Alors que dans une organisation, il y a 1 milliard de trucs à penser.
Ah, tout à fait.
Ils ne peuvent pas être des experts comme nous dans le monde de la vente que j'appelle vanille.
Ben non.
Eux, ils sont des experts dans leur monde. Mmh. Puis c'est la somme des deux qui fait qu'on va trouver la recette qui va goûter exactement ce dont ils ont besoin pour passer à autre chose. Là. Mais si nous, on ne travaille pas sur notre formule vanille pour qu'elle soit optimale, on ne peut pas aider ces organisations, les soutenir à évoluer à différentes places, comme les comptables le font ou les boîtes d'ingénierie le font. On a tous un rôle.
T'as raison. Est-ce que tu prends encore la clientèle? Est-ce qu'il te reste des clients à aller chercher peut-être?
Il me reste l'Amérique du Nord.
L'Amérique du Nord, c'est un petit coin de pays.
Ouais, on est rendu 9 consultants, j'en ai un 10e qui va arriver, puis on est prêt. Là,
Vous êtes prêt à ouvrir la machine?
Oui, oui, oui.
Parce que tu le vis aussi dans ta clientèle, des fois, comme tu disais tout à l'heure, au niveau du... des fois, on n'est pas capable de gérer justement la feuille de production. On a fait plein de ventes, mais maintenant, il faut livrer.
Tout à fait. C'est là que je reviens sur le début de la discussion.
Ouais.
Mon diplôme en ingénierie, puis marketing, puis vente, puis ma leçon de vente,
c'est rationnel.
En bon latin, on dit le sales and operation planning, là,
mm-hmm.
ce que j'appelle moi l'effet papillon. Là. Je peux rencontrer à Noël le nouveau mononcle qui est peut-être le président d'une multi-entreprise, d'une grosse entreprise qui va peut-être impacter à 50% mes opérations dans 18 mois. Il faut qu'il soit au courant le plus tôt possible.
La chenille qui deviendra le papillon.
Exact.
Est-ce que j'aurais le goût de te laisser le mot de la fin, Quin?
Hey, mon Dieu, ben fin alors.
Non. On veut des trucs. Nos auditeurs sont assoiffés de trucs puis de conseils. Puis,
OK, je vais donner un conseil que je donne souvent. Juste celui-là, c'est le plus payant.
Oui, ah ouais, go.
Et gratuit en plus. Je donne ça gratuit.
Gratuit. Let's go.
On forme depuis très longtemps sur la négociation avec l'approche.
Oui.
Puis, le gros problème, puis je parle à tous les auditeurs, puis nous-mêmes, on le fait, là, c'est le plus grand coupeur de prix dans le truc, c'est nous-mêmes. Mm. Combien de fois j'entends des équipes qui disent « Je ne peux pas aller présenter ce prix-là au client, il ne voudra pas.
Mm. »
Parce que c'est sa job au client de couper le prix, ce n'est pas la vôtre.
Mm.
Puis assurez-vous d'être capable de le
défendre. C'est la job du client de couper le prix et non pas du vendeur.
Exact. Donc,
ben oui.
Arrêtez de vous auto... mutilé parce qu'en plus, vous faites un cadeau au client, puis il ne sait même pas.
Ah oui.
Je lui ai donné, j'arrive, je lui ai donné 20% sur le prix. Il ne sait même pas que j'ai fait un cadeau, donc ça ne vaut rien. À part juste que je viens de perdre 7-8 points de ma marge. Donc, petit conseil, posez-vous la question combien de fois vous avez négocié vous-même votre propre marge avant que le client le fasse.
J'adore. J'adore. Je suis prêt à libérer les auditeurs maintenant, à les en paix. Merci beaucoup, Rodolphe
Ménier. C'est un grand plaisir, Réjean.
Une belle rencontre aujourd'hui. On ne se connaissait pas.
Non,
alors,
c'est fait.
Ça, c'est le fun. On va garder contact. La gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, c'est que dans la jungle des affaires, on a du plaisir.
Merci d'avoir écouté La jungle des affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.